France Culture. Les matins du samedi. Caroline Bourré.
Bonjour Natacha.
Bonjour Caroline.
On part évidemment en Algérie pour commencer. L'Algérie qui manifestait hier encore une fois contre le cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika et qui fait donc la une de pas mal de nos journaux ce matin.
Et c'est dans les pages du Monde, de Libération et du Figaro ce matin, avec pour chacun un champ lexical du naufrage. C'est comme si, chaque jour, le bateau prenait un peu plus l'eau, nous dit le Figaro. Le journal consacre 3 pages à l'événement. La foule s'intensifie dans les rues d'Alger. Le doute plane toujours sur l'état de santé du président. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est mort? C'est ce qui ressort le plus des cortèges. Libération aussi a suivi ce tsunami humain. Sous les auspices du 8 mars, les Algériennes étaient plus nombreuses hier. On pouvait lire sur les banderoles « On ne peut libérer un pays si on ne libère pas sa femme ». Les pages du Monde, elles, sont plus politiques. Elles s'attardent sur les traces d'un pouvoir qui se fissure. Les soutiens du chef de l'État, très présents au cours des derniers mois, quittent le navire avec fracas. Et même du côté des anciens combattants, les inconditionnels du président. Mercredi, le mouvement Mouattana, citoyenneté, a appelé et a engagé des élections dignes de ce nom pour préparer une nouvelle république.
Et retour en France, on en parlait à l'instant. Emmanuel Macron va donc prolonger le grand débat national jusqu'au mois d'avril. Mais dans son dossier, Courrier International pose cette question. Peut-on encore débattre? Et là, je vois notre invité ouvrir grand ses oreilles.
Entre les dénonciations du politiquement correct aux États-Unis, entre l'impossible dialogue sur le Brexit, il n'y a pas qu'en France que la question se pose. Pour The New Statesman, une nouvelle école de débat a vu le jour. Elle nous vient de 2 figures médiatiques américaines, Jordan Peterson et Ben Shapiro, l'auteur du manuel « Comment exploser les gauchistes en débat ». Le but n'est plus de convaincre l'adversaire, mais de le détruire. Pour reprendre les mots du journaliste Dorian Lindsay, cette nouvelle forme de débat est conçue pour submerger l'autre sous un flot improbable de statistiques, de sophismes et de bons mots, élaborés pour être repris en boucle sur YouTube. Bref, que le meilleur clash. Mais à l'heure des réseaux sociaux, est-il tout simplement possible de discuter? Pour le correspondant italien Paolo Levi, la réponse est non. Le besoin de reconnaissance est tellement fort qu'on ne s'écoute plus. C'est le signe d'un délitement des liens sociaux et d'une radicalisation, de la disparition des nuances et de l'échange. Tout cela est en partie lié au poids des réseaux sociaux. Et plus pernicieux encore, Internet a imposé à la politique cette même exigence d'instantanéité. On attend des résultats tout de suite et maintenant.
Jean-Paul Bailly, est-ce qu'on peut encore discuter à l'heure des réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous avez constaté, vous, par rapport à tout ce que vous avez suivi depuis 2 mois? Est-ce qu'Internet a imposé une exigence d'instantanéité à la politique? Est-ce que c'est venu handicaper le débat ou non?
Écoutez, ce n'est pas... En tout cas, je n'ai pas perçu que c'est soit venu handicaper le débat. Et beaucoup de choses qui se sont passées parallèlement au débat et souvent, c'est plutôt bien. Enfin, je veux dire, il y a eu des débats parallèles,
oui.
Débats Internet, où il y a eu même le vrai débat organisé par les Gilets jaunes. Tout ça sont des contributions. Et on ne se situe pas du tout en un espèce de concurrence par rapport à ça, mais plutôt en complémentarité et en synthèse.
Donc, vous voyez tout ça d'un très bon
oeil. On est prêt à... Enfin, on... Je veux dire, à accueillir ces différentes contributions qui vont participer de l'image générale que vont donner les Français de ce qui est important pour eux.
Allez, Natacha Trio, suite et fin donc de votre revue de presse avec Alternatives économiques qui consacre un dossier à la start-up. Start-up, la grande illusion.
Et si la start-up nation n'était qu'une utopie? Voilà, toutes les limites de ce modèle économique apparaissent dans ce dossier. Premier fantasme, les start-up ont un impact sur l'emploi. Alors certes, elles en créent, hein, oui, mais de façon marginale et dans des secteurs de niche, high-tech et numérique. Mais surtout, leur taux de mortalité est élevé. 9 sur 10 mettent les clés sous la porte. Deuxième fantasme, elles sont un moteur à l'innovation. Les économistes sont d'accord pour dire que l'innovation est surtout l'affaire des grands groupes installés. Et pour finir d'abîmer ce mythe, l'entretien avec le sociologue Michel Villette. La Startup Nation d'Emmanuel Macron n'est que le prolongement d'une politique publique déjà vieille de bientôt 20 ans. Cette politique est une promesse faite à la jeunesse. Il n'y a pas assez d'emplois salariés pour vous tous, mais ce n'est pas grave, vous allez créer votre entreprise. La promesse ne vaut pas grand-chose car sur le papier, il y a plus de perdants que de gagnants. Pour le redressement économique de la France, les pouvoirs publics misent gros sur elle. Mais soutenir ce modèle, c'est peut-être passer à côté d'un véritable enjeu, à savoir moderniser l'ensemble des entreprises du pays.